Alors tu veux faire danseur?
And push. And turn and people down.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser?
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit, on se tourne vers le miroir, allez!
Et bienvenue à une nouvelle semaine ici à Divergence, une maison qui accueille la danse ici à Montpellier où la danse se fait entendre. J'espère que vous avez passé des beaux moments et comme je l'ai vous souhaité la dernière fois, des belles aventures mouvementées dans vos vies. On revient cette semaine avec une invitée spéciale, cette invitée qui nous est très chère, Laurence Loupe, qui nous fait part de sa pensée très complexe et très située par rapport à la danse contemporaine, notamment au rouage de ce qu'elle a pu observer pendant ses longues années d'expérience en tant que chercheuse et écrivaine de la danse contemporaine. On avait évoqué la dernière fois un peu la différence entre le thème et les propos dans la danse contemporaine, parfois on peut le confondre, et c'est un sujet qui n'est pas tout à fait easy, c'est pas facile de le distinguer, mais je vais donner la peine d'essayer d'éclaircir ces deux termes aujourd'hui. Nous avons dit que le propos était de l'ordre de l'objectif ou de l'intentionnel, c'est ce qui est donné pour que la chorégraphie fonctionne. Tandis que le thème, c'est juste une base. C'est quelque chose qui est au début et qui va à permettre le dialogue entre le chorégraphe et les danseurs, mais aussi avec celui qui regarde les spectateurs. C'est un peu ça. Et donc aujourd'hui, j'ai ramené quelques exemples qui vont peut-être donner un peu plus de concret à cette distinction qui peut paraître parfois assez complexe, sachant que dans la danse contemporaine, et moi je me fatiguerai jamais de le dire, c'est toujours une difficulté quand on n'a pas certains codes. Et quand on a peut-être mal à accéder à quelques images ou à quelques informations pour comprendre quelque part la danse, même si je pense que la danse, elle n'a pas besoin d'être comprise, parce qu'on avait parlé de, par exemple, de ces champs cognitifs qui s'activent quand on regarde la danse. On regarde la danse et si on sait faire à peu près ces mouvements, les neurones, elles vont s'activer, ils vont presque élaborer les mêmes mouvements qu'on est en train de regarder sur le plateau, sur la scène ou sur l'espace scénique, quoi qu'il en soit. Et donc c'est un tout, c'est vouloir comprendre quelque part, mais c'est aussi apprendre à lire cette configuration qui propose le chorégraphe, et on sait tous que chaque chorégraphe est un artiste à part entière et qui va proposer évidemment une nouveauté qui les concerne, qui les précieuse, et c'est ce qu'on essaye de tenter de comprendre. Donc on va parler au début par exemple de Siloé, une création de la chorégraphe Christine Bastin. Et dans ces projets, la littérature a une forte présence et elle est inspirée fortement par la narration. Et donc les textes dans la création est présent vocalement. Il est assez présent. Il a une place très très frontale. Mais donc le texte n'a pas de lien direct avec le propos de la chorégraphe. Et là, on trouve un code qui est très très commun et qui est une belle conquête de la danse contemporaine, c'est-à-dire à casser justement cette relation entre un contenu et le propos. Quand on va dans une pièce de théâtre, c'est complexe, mais au moins quand on a les titres de la pièce, si on va voir Othello par exemple de Shakespeare, on sait très bien qu'il y a la jalousie qui est au centre un peu de la pièce. Et on va voir pouvoir une idée de à quelles images je vais me saisir, de quelles images je vais me saisir pour essayer de amener ma compréhension pendant le spectacle. Et on danse, bien évidemment, comme c'est des rebelles. Et donc ils sont cassés justement ce lien qui pourrait être établi en quelque sorte. Et donc ça, c'est une dislocation, une liberté très assumée dans le milieu de la danse contemporaine qui est parfois déroutante, parce que même ceux qui sont expérimentés à regarder des spectacles ou tout simplement des gens qui aiment la danse et qui vont voir peuvent être parfois être jetés dans un abîme où il n'y a pas possibilité de compréhension. Mais il y aura toujours une sensation qui va être perçue par vous, par les corps, et qui va vous permettre d'habiter quand même, d'habiter ce que vous regardez ou ce que vous entendez, parce qu'il y a aussi le son. Et donc, là on voit très bien que dans cette différenciation de la danse par rapport aux autres arts, la danse, elle s'est complètement détachée, elle s'est donnée ce privilège, cette liberté de ne plus suivre de façon linéaire les textes. Comme par exemple, dans le cinéma, même s'il y a des ellipses, s'il y a des anaphores, et s'il y a des figures qui jouent avec la linéarité du texte, dans le film, on va avoir quand même une suite de séquences qui vont répondre à ces textes dont les films s'inspirent ou d'où sort l'inspiration du cinéaste. Et donc en danse, c'est encore beaucoup plus éclaté, je dirais. J'ai déjà utilisé les termes, mais je le répète, la dislocation, cette dislocation du récit, et qu'on en avait évoqué un peu brièvement la rupture avec les ballets romantiques, par exemple, où on sait que il y a une telle créature qui arrive, qui va lui arriver le pire. Et donc la danse contemporaine, elle va forcément casser ses codes, et elle propose justement des thèmes et des propos qui ne sont pas parfois avec un lien évident et concret. Dans un exemple contraire, nous trouvons la pièce Don Quichotte. Cette fois-ci, fait par Santiago Sempere. J'espère bien prononcer son nom. j'ai coupé les titres. Les titres, c'est plus long. Don Quichotte, Petite et Grande Mort. C'est une pièce de 1990. Et donc ici, c'est qu'on parlait du texte, la référence à cette œuvre de Cervantes, c'est plutôt une référence fantomatique. C'est une référence qui est dépossédée, qui est dépourvue de son identité. Et donc il va jouer à utiliser la figure de la dépossession. Il va travailler plutôt le texte comme un mythe, où l'identité de ce Quichotte est presque soit inexistante, soit très, très dépossédée de sa nature et des codes par lesquels on pourrait le reconnaître. Comment il fait ça? Parce que Santiago Sempere, il va mettre un chaos d'action très intelligente dans un décor qui n'a pas du tout la cohérence avec les temps de l'œuvre de Cervantes. C'est-à-dire le Là, je peux me tromper, je vais pas chercher, mais c'est, ça doit être le 16e siècle, le 13e siècle, je me souviens pas très bien. Bon, en tout cas, c'est du vieil espagnol que moi-même, j'ai du mal à lire. Moi, je parle l'espagnol de façon native, mais c'est une dislocation qui est proposée par le chorégraphe en donnant un décor et des actions qui ne sont pas du tout cohérentes. Et donc, dans ce cas, par exemple, là, on parle des propos. Ça, c'est un propos. Donc, de faire que la danse ce contexte soit incohérent avec ce qui est proposé par les corps des danseurs. Laurence Loop nous rappelle que toute danse a un thème, mais que ce thème peut être parfois narratif ou pas du tout. On peut raconter quelque chose, il peut exister un récit ou pas du tout. Comme on le verra tout à l'heure avec un autre exemple. Il y a une manière de comprendre le propos d'une façon absolument que je trouve séduisante. C'est ce qui m'a attiré beaucoup à la danse que j'ai pratiquée. C'était de faire de la danse une créature libre de toute source extérieure au mouvement, c'est-à-dire pas de musique par exemple. Il y a des chorégraphes qui disent je ne travaille pas avec la musique, il y a d'autres qui vont dire je ne utilise pas des deux corps, j'utilise des chaussures, etc. Donc il va y avoir des choix qui vont être établis pour justement libérer du carcan de l'influence du récit, d'une histoire et de cette perception à laquelle on a été habitué en ayant une culture théâtrale, une culture cinématographique, une culture de littérature. Et donc c'est ça qui devient intéressant, parce qu'on dirait mais s'il n'y a pas d'histoire, qu'est-ce qu'on va me raconter? Pourquoi bon venir à une pièce de danse qui ne me raconte rien? Et c'est très complexe, mais c'est justement parce que la danse, elle cherche à pouvoir travailler à partir de sa propre nature, c'est-à-dire le mouvement, le geste et tout ce qui en découle quand on regarde un geste, un mouvement. Et donc parfois dans les pièces, on va trouver, c'est très courant dans certains chorégraphes, de trouver que la pièce commence avec un geste précis, dont nous n'avons pas forcément plus de contexte que ça. Nous ne savons pas forcément les thèmes qui est caché dans ces gestes, qui peut être un geste clé. Et on va voir ces gestes, on va voir une répétition de ces gestes. On va les voir varier de façon innombrable. On va les voir en distorsion, etc. Et donc ces mêmes gestes, il va être une sorte de genèse qui va être traitée. Parfois on va l'appeler aussi, comme dans la musique, le motif, c'est-à-dire quelque chose qui va se répéter au long de la pièce et qu'on va pouvoir le reconnaître dans sa nature ou dénaturée ou modifiée. Et donc dans ces cas, par exemple, la thématique, elle est secrète, elle est gardée à l'intérieur de ce geste qui nous est donné et que nous on accepte, on le perçoit et donc tout est implicite, tout est tacite dans cette recherche de comment faire comment éliminer le récit, comment ne pas raconter une histoire tout de suite et de pouvoir permettre le mouvement lui-même de se manifester. Avant de passer à mon prochain exemple, aujourd'hui je vous ai ramené une musique qui, pour beaucoup de danseurs, je pense que des années 2000 et quelques, fait beaucoup de sens et on en discutera de ça tout à l'heure.
He venido al desierto para irme de tu amor, y que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar, que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar, que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Ah, ah.
Ahora sí. He venido al desierto para reírme de tu amor, que el desierto más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca me decís.
He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Porque el alma prende fuego cuando deja de amar.
Ah. Ahora sí. He venido yo corriendo y olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego.
Et avec Las ADC, cette chanson de 1997, la magnifique Las ADC, qui est une femme admirable avec une voix qui déchire beaucoup les cœurs. Donc, elle est venue, je suis venue dans les déserts pour me moquer de ton amour, car les déserts est plus doux et l'épine embrasse mieux. Que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. Je suis venu au centre du néant pour crier que tu n'as jamais mérité ce que j'ai tant voulu donner. Je suis venu en courant, en m'oubliant de toi. Donne-moi un bisou, petit oiseau, ne t'effraie pas, colibri. Je suis venu enflammer dans les déserts pour brûler, parce que quand l'âme prend feu, quand elle cesse d'aimer. C'est la petite chanson d'aujourd'hui que je pense que parlait un peu de ce geste de quelle âme prend feu quand elle cesse d'aimer, quand elle cesse de produire une émotion. Et donc nous sommes aujourd'hui ici, on mange sur avec une petite distinction très technique du monde de la danse et entre thématique et propos. Et le prochain exemple s'agit dans la même mouvance que tout à l'heure avec ces propos de vouloir faire de la danse libre de toute source extérieure au mouvement. Et donc on va voir en 1934 Drama in Motion de Doris Humphrey où justement, le propos va être de ne pas avoir de musique, de ne pas inclure un décor et de ne pas avoir de tout d'inspiration de la littérature, ni pas avoir de texte de jeunesse. Un autre exemple où on peut se retrouver dans un autre univers, bien évidemment, on a Isadora Duncan, mais cette fois-ci cité par Jacqueline Robinson, où on va parler d'un geste et clé. J'aime beaucoup ces deux mots, geste et clé, parce que ça nous donne justement une indice quelque part de ce qui est insinué par la chorégraphe dans ces cas. Et là, on va parler des sèmes, quelque chose qui est un centre sémantique, un geste fondateur, une sorte de sémence, une sorte de gestation, de je pourrais même dire des agones, comme l'étymologie de action dans la Grèce antique. Et donc ces gestes-là, c'est par lesquels on va reconnaître justement tout le long du spectacle. Et c'est ça qui est attirant, parce que on est capable justement de reconnaître ces gestes-là qui se déforment, qui se dessinent à chaque fois d'une façon qui ressemble, mais qui est aussi en action, en mouvement, et qui a sa propre façon d'exister. Un autre exemple de justement ce problème énorme pendant le XXe siècle avec le récit entre la danse et la narration, c'est bien évidemment le grand chorégraphe José Limón, à qui on doit des mains trop belles qui se déplacent dans l'air. Et lui, il choisit par exemple les cercles. Les cercles parce qu'il s'intéresse beaucoup aux communautés humaines, et donc les cercles va permettre justement d'établir un espace où quelque chose est à l'intérieur de cette communauté, et à l'extérieur de cette communauté sont écartés certains personnages, etc. Donc ça va être utilisé comme un récit une figure qui va avoir toute une symbologie très 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 costaude. Là, on parle en particulier des La Pavane du Mauve, où, dans l'occurrence, on avait cité tout à l'heure Othello, cette pièce de Shakespeare qui traite sur la jalousie, où Iago va toujours être. Je ne sais plus le terme en français, mais qui va toujours être en invitation à Othello de provoquer des mauvaises. Ont des vibrations sur Desdemone. Et donc José Limón va utiliser ce récit d'Othello juste en surface. Et parce que ce qu'on va voir réellement, c'est une pavane. Le titre de la pièce, c'est La Pavane du Mauve. Et donc là, on a encore une fois une dislocation entre le texte qui est donné en surface et le contenu lui-même de la configuration du spectacle, qui est une pavane. Là, on fait un grand saut au grand maître Cunningham, où on le met en comparaison avec José Limón, en opposition, parce que José Limón, donc on a parlé que c'était un cercle, et là, Cunningham, il va parler plutôt de plan directionnel, dans une pièce de 1963 qui s'appelle Summer Space, où il va s'agir de traverser l'espace, de proposer des directions beaucoup plus de traverser, de dépasser l'espace, de faire ces traversées qui sont très connues dans son travail. Et donc, si vous voyez bien, là, il y a plein de manières dans ces exemples qu'on a vus de travailler et d'échapper justement à ces manigances du récit qui sont toujours un peu à côté. La danse, elle a toujours été très très séduite par le récit, toujours tentée et happée par le récit, justement par la proximité du lieu du théâtre. Elle a toujours été à côté du théâtre. Rappelez-vous que la danse a des moments historiques, elle n'avait pas de place dans, par exemple pour certains philosophes, la danse ne faisait pas partie des arts. Le théâtre oui, mais la danse non. Et donc cette relation est toujours très, très conflictuelle, très difficile. Avec tous ces exemples qu'on a donnés, il y a une volonté de justement de ne pas dépendre de ces récits extérieurs, de cette influence des autres médiums. Et là, il me reste le temps pour aussi faire la distinction entre la thématique et ce qu'on peut appeler de l'ordre de la narration. Donc la thématique, c'est une amorce, c'est quelque chose qui va être au début, qui va provoquer soit la création, soit le dialogue avec les spectateurs. Tandis que la narration, c'est quelque chose de plus dans la durée, dans le développement, et qui va plutôt être du côté de cette dualité qui était proposée à l'Antiquité par Platon, où il y avait la mimesis qui était l'imitation et la diégésis qui était le récit lui-même. Vous connaissez peut-être que c'était toute la question de l'expression et de la naissance du théâtre. Et donc on distingue forcément ces deux instances dans les spectacles des danses. Et donc là, on peut dire deux, trois mots sur cette volonté de travailler une structure conflictuelle ou progressive des énergies et des couleurs. Là, on parlait de comment toutes ces manifestations et ces dynamiques, ces configurations, ces montres. Et donc, en l'occurrence, pour la danse, il n'y avait plus besoin des contenus pour fonder les cadres de son actualisation. Donc la manière de actualiser la situation qu'on voulait montrer, il n'y avait plus besoin dans le cadre de la danse contemporaine de ces contenus, de ces cadres-là. Le dernier exemple que j'ai ramené pour aujourd'hui, c'est de la danse théâtre. J'ai toujours mal à prononcer la danse théâtre. Où Laurence nous rappelle que c'est un art non naturaliste, où on va donner aux spectateurs les informations sur l'économie énergétique d'un acte humain, par exemple. Donc on ne va pas dire pourquoi est-ce que la personne bouge, mais on va nous dire comment est-ce que cet acte-là a été développé, quelle est un peu la progression de l'économie qu'on utilise pour faire tel acte. Je me pose un exemple très précis pour s'asseoir. Donc, comment on s'assied, on sait, ceux qui ont fait des ateliers de danse, qu'il y a mille manières de s'asseoir, sur la gauche, sur la droite, en appuyant, en appuyant avec les abdos, sans les abdos, vers l'arrière, etc. Donc il y a tout un travail de cette analyse-là qui est proposé par cette danse théâtre. Il s'agit plus de l'apparence formelle de l'acte en lui-même. Et je me suis trompé parce que j'ai encore un autre exemple. Et c'est le cas de Marie Wigman, où elle découvre un personnage des sorcières. Et donc elle va être plus dans quelque chose qui est de l'ordre de l'état, un état des danses, comme qui représente ce danseur qui est dans son corps trouble, a une identité double où il se donne au pli de l'improvisation, et il y a une entité qui apparaît à son insu, qui est cachée dans ce terrain de l'inconnu où nous avons beaucoup beaucoup parlé, une sorte de corps possédé. Et pour finir, Pina Bausch aussi peut être un peu dans cette mouvance-là de l'innommable et de ses désirs avortés, fantasme régressif. On arrive à la fin de l'émission et je suis content de pouvoir parler des choses un peu pointues et pas vous faire peur, mais essayer de voir et d'apprendre de ceux qui connaissent un peu plus que nous, mais nous aussi pour avoir un discours, un argument un peu plus informé et pouvoir juste tout simplement discuter de ce qu'on perçoit. Je vous souhaite une belle semaine et on se retrouvera une semaine prochaine avec ici l'équipe des Divergences chaleureusement et bon courage pour la chaleur.
Alors tu veux faire danseur?
And push and turn and people.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser?
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit, on se tourne vers le miroir, allez!